Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
À l'heure où les défis écologiques, économiques et sociaux se croisent avec une intensité sans précédent, la question du développement territorial durable s'impose en urgence. Derrière cette expression un peu technique se cache une réalité concrète. Comment penser l'avenir de nos villes tout en respectant les équilibres de la planète et les besoins des générations futures? Et pour en parler, votre émission Durabilité reçoit aujourd'hui Mohamed Hakim Belkadi, consultant architecte, expert data designer en écosystèmes urbains prédictifs et des milieux interconnectés. Bienvenue dans l'émission Durabilité. Merci de nous servir aujourd'hui également d'expert dans le domaine de l'architecture.
Merci pour l'invitation. Je suis très ému d'avoir été invité pour parler quand même d'un sujet qui est d'actualité, qui touche la planète entière. Comment repenser le développement territorial au Maroc à l'heure du changement climatique? Le Maroc aujourd'hui, en tant que pays semi-aride, en transition accélérée, est aujourd'hui confronté à des défis. Mmh. Plusieurs défis territoriaux, notamment la raréfaction des ressources naturelles, l'accélération des pressions climatiques, ce qu'on appelle communément l'aridification, le stress hydrique et les érosions côtières, ainsi que des mutations socio-économiques, notamment l'urbanisation, l'inégalité territoriale et le problème patent qui est celui qui est relatif à la migration interne. Donc, dans ce contexte, le développement territorial ne peut plus se limiter à une logique d'aménagement et d'extension, mais doit intégrer une vision beaucoup plus régénérative et résiliente et anticipatrice.
Et dans cette même dynamique, vous avez aussitôt mis les mains dans le ciment de l'architecture. En quoi également l'architecture durable peut-elle répondre aux défis spécifiques des villes marocaines, notamment en matière de logement, de mobilité et de gestion de l'eau?
Alors en fait, le logement, plutôt, on a ce souci aujourd'hui de s'orienter beaucoup plus vers une architecture bioclimatique, inclusive et résiliente. Donc le défi du logement au Maroc, il est double, il est quantitatif et qualitatif. L'architecture durable aujourd'hui propose plusieurs alternatives, donc plusieurs réponses intégrées, notamment l'optimisation bioclimatique, les matériaux locaux, une densité mesurée qui favorise la compacité sans créer d'enclavement et qui valorise surtout les espaces partagés. Nous avons quelques exemples d'ailleurs qui sont révélateurs, comme l'exemple du Mexique, qui ont intégré du design bioclimatique dans les projets de logements sociaux. Vous avez le Earth Chip Biotector au Mexique aussi, et nous avons aussi des pays en Afrique comme le Burkina Faso qui a lancer une opération Gando Primary School, c'est un exemple d'architecte en terre. Il y a ce souci justement d'intégration d'architecture bioclimatique.
D'architecture bioclimatique et aussi également, vous parlez d'écosystèmes urbains prédictifs. Concrètement, à quoi cela ressemble et comment cela transforme-t-il de manière également à planifier nos villes?
En fait, un écosystème urbain prédictif désigne une ville capable d'anticiper ses besoins et ces crises avant qu'ils ne surviennent, en mobilisant des technologies numériques, des données en temps réel, l'intelligence collective. En fait, c'est une ville intelligente, sensible, apprenante et réactive, qui ne se contente pas juste de réagir, mais qui prévoit, modélise et optimise son fonctionnement en permanence.
Un fonctionnement en permanence aussi. Le Maroc s'apprête donc à accueillir la Coupe du Monde 2030 et aussi la Coupe d'Afrique 2025 bien avant. Comment cet événement peut-il, ou ces deux événements peuvent-ils être un levier de transformation urbaine durable plutôt qu'une simple vitrine?
Alors en fait, la Coupe du Monde 2030, co-organisée entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ne doit pas être envisagée comme un simple spectacle planétaire, mais comme une opportunité de requalification urbaine, de modernisation territoriale et d'accélération des transitions. Donc pour le Maroc, il ne s'agit pas de construire des infrastructures ponctuelles ou de générer une vitrine événementielle, mais de faire de cette échéance un catalyseur de vision à long terme. C'est un méga événement qui constitue un levier systémique. Et les expériences passées montrent que des grands événements sportifs peuvent produire des effets contrastés. Donc nous citons l'exemple de Barcelone, Londres, de Munich, à des périodes tout à fait différentes, 92, 2006 à 2012. Donc le Maroc aujourd'hui doit se positionner de manière à ce que ces villes hautes, notamment Casa, Rabat, Fès, Marrakech, Agadir et Tanger, doivent articuler des besoins liés à l'événement avec les besoins structurels pour le territoire, notamment la mobilité, le logement, les infrastructures sociales et l'inclusion des périphéries.
L'inclusion des périphéries également, donc face à l'expansion aussi urbaine, quelle stratégie recommandez-vous pour éviter l'entropie urbaine et favoriser la résilience des territoires ?
Effectivement, donc l'étalement, ou ce que j'appelle l'expansion urbaine, qui est généralement mal maîtrisée, engendre une entropie territoriale. L'entropie, c'est le désordre total, donc c'est une urbanisation qui est non contrôlée. Et cela implique une dégradation progressive de la qualité de l'espace urbain, donc marquée par les dispersions, la fragmentation des fonctions, la congestion, la pollution, la perte de biodiversité, surtout l'imperméabilisation des territoires par la conquête du béton, puisque aujourd'hui, avec le problème du stress hydrique, il faut un peu libérer les territoires, créer beaucoup plus de corridors verts, d'espaces verts, parce que nous sommes tous dans des environnements vulnérables qui confrontent des chocs climatiques. Et cette entropie n'est pas une fatalité, en fait. Elle résulte d'un urbanisme linéaire et généralement court-termiste dans sa façon de concevoir les choses. Donc, pour inverser cette tendance et bâtir des territoires résilients, il faut créer une stratégie systémique fondée sur le vivant et sur la régénération et la capacité adaptative. Donc cela implique plusieurs échelles imbriquées, notamment la rue, le quartier et in fine la métropole. Et bien sûr s'inspirer des pratiques internationales qui sont quand même qui ont donné leurs fruits.
Et pour parler également de cette expertise, quel rôle les citoyens, les architectes, mais aussi les nouvelles technologies peuvent-ils jouer dans la construction des villes plus intelligentes, mais aussi plus inclusives ?
Alors les villes intelligentes ne sont véritablement durables que si elles sont inclusives, où il y a quand même des espaces collaboratifs aux besoins humains, parce qu'il faut qu'il y ait de l'humanité dans les villes intelligentes. Il ne s'agit pas seulement de connecter des objets, mais aussi de connecter des intelligences, c'est-à-dire l'intelligence collective, humaine, collective, artificielle et territoriale. Dans cette dynamique, donc trois forces doivent converger. Donc il y a la participation du citoyen, qui est une donnée essentielle, qui est une chose importante. Vous avez l'évolution du rôle des architectes, des urbanistes, qui sont aussi essentiels dans le développement des villes intelligentes, et l'intégration stratégique des technologies. Donc dans cette triangulation, on permet d'émerger une ville augmentée, mais aussi habitée et partagée. Et en fait, ça, l'objectif des villes, et non pas en créer des villes complètement artificielles, où le citoyen, justement, joue le rôle principal et au centre même de toutes les réflexions. Donc l'urbanisme de demain ne peut plus se faire sur les citoyens, mais avec eux. Il faut les impliquer. Et grâce aux outils numériques et aux démarches participatives, les habitants deviennent donc producteurs de données, d'idées, de récits et de solutions.
Et des solutions. Dernière question également, M. Belkadi, concernant, vous l'avez dit également, ces constructions, mais pour le citoyen au revenu moyen, est-ce qu'il voudrait également s'inscrire dans une architecture durable ? Quels conseils auriez-vous à leur donner à ces personnes qui vivent au fin fond du Maroc, qui, à travers leur mago moyen, voudraient avoir une maison ou ne serait-ce qu'également une structure qui puisse s'inscrire dans la durée ?
Alors en fait, nous avons longtemps réfléchi, et surtout notamment après le drame et la tragédie du séisme de l'Haouz, où justement les personnes qui habitent généralement dans ces régions-là, qui pratiquent l'agropastoralisme, qui sont liés à leur paysage, liés à leur environnement, justement nécessitent une approche tout à fait qui doit prendre en considération justement les aspects bioclimatiques de manière à intégrer ces citoyens dans leur environnement. Donc il faut, à mon avis, créer des laboratoires ou bien des observatoires participatifs qui permettent d'impliquer le citoyen pour lui créer quelque chose de vivable avec eux et faire appel à des technologies tout à fait modernes, ou enfin, pas forcément modernes, faire appel à l'architecture de terre qui va permettre justement de co-construire un produit adaptable et pas cher justement, parce qu'il faut quand même que ces gens-là puissent habiter dans des logements qui sont accessibles. Et nous avons donc plusieurs possibilités de le faire, notamment en impliquant des architectes, des sociologues, des anthropologues qui connaissent un petit peu la manière avec laquelle ces gens ont évolué dans leur territoire pour justement arriver à produire quelque chose de qui va satisfaire le citoyen en question.
Et tout ça, bien évidemment, pour l'avenir de nos villes, tout en respectant les équilibres de la planète et les besoins des générations futures. Merci encore à vous, M. Mohamed Hakim Belkadi. Je rappelle donc que vous êtes consultant architecte, expert data designer en écosystème urbain prédictif et des milieux interconnectés.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Tout le plaisir est pour nous. Et merci également à vous, chers amis, pour la durabilité de votre confiance renouvelée. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro, toujours dans votre émission.